5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes avec le groupe Orion pour vous parler de l'actualité du ciel et de l'espace. Avec Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Quoi de neuf dans notre espace proche en ce week-end 2019 ? Plusieurs sondes, plusieurs...
Ah oui, beaucoup de choses toujours au-dessus de nos têtes. Alors, je vous propose d'aller faire un petit tour directement sur Mars.
Alors, commençons par Mars, avec la mission InSight.
Alors, la mission InSight, donc, c'est une mission qui est arrivée début janvier, donc, sur Mars. C'est une sonde, hein, c'est pas un rover, ça roule pas, hein, c'est sur place. Donc, on a déployé des instruments. Alors, ces instruments, il a fallu le temps de les poser, de les installer. Donc, le premier, c'était SEIS.
Donc, en français moyen, ça nous fait quoi ?
Oui, alors c'est tout en anglais. C'est un outil qui est posé sur Mars, car c'est un petit bras robotique, on le pose sur la planète, on lui enlève son chapeau, et puis donc il va commencer à étudier la sismologie un petit peu de cette planète Mars, voir si ça bouge au-dessous, s'il y a pas de volcan hein, sur Mars. Enfin, ils sont éteints, si, il y a un grand volcan, l'Olympus Mons, mais il est éteint. Et voilà, puis voir si ça bouge un petit peu dans le noyau de la planète.
Donc InSight s'intéresse au sous-sol de Mars.
De Mars, voilà.
Voilà. Et donc, il a depuis peu de temps. Qu'est-ce qu'il fait actuellement ?
Alors actuellement, donc, ce premier instrument a été posé et il a commencé ses études. Et donc au sol, on recueille les données des observations qui sont faites journellement à travers des spectromètres, des radiomètres, donc des petits outils qui sondent le sol de Mars.
D'accord. Donc le premier bilan, c'est quoi ? C'est de l'installation ? Alors, on n'a pas vraiment de
non,
retour ?
Non, pour l'instant, on n'a pas de retour parce que les astronomes donc recueillent ces informations. Il faut le temps de les décrypter. Et puis bien sûr, au fur et à mesure... que ça arrive, c'est donné dans le monde scientifique, et puis avant que ça parvienne au grand public, ben, ça vient au compte-goutte.
Voilà, donc on attend beaucoup quand même de cette sonde. On rappelle que c'est pas un véhicule, c'est quelque chose qui reste sur place.
Oui.
Et qui nous renvoie effectivement à un certain nombre d'informations dont on attend beaucoup quand même sur meilleure connaissance du sous-sol.
Voilà, alors pour ce premier instrument, parce qu'il y en a un autre.
D'accord.
Voilà.
Donc effectivement, on voit qu'il y a un premier instrument qui s'intéresse au sous-sol. Donc InSight, ce n'est pas que ça.
Non, alors avec un deuxième instrument mis en place cette semaine, donc on appelle HP3. Alors HP3, c'est puissance 3, donc il faut prononcer HP cube.
D'accord, et ça sert à quoi ?
Alors cet instrument, c'est une sonde qui va s'enfoncer dans le sol, donc une petite foreuse, hein, puisque les scientifiques envisagent jusqu'à 5 mètres de profondeur. Donc on va mesurer aussi la température du sol, hein, et puis de voir un petit peu, faire des analyses de sol. Alors c'est une foreuse d'un diamètre qui doit faire entre 5 et 10 centimètres, vous voyez, et qui va tourner, qui va descendre. Alors... avec la question de voir si on rencontre un caillou, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on s'est posé sur un endroit qui avait été étudié par la NASA, où on suppose qu'il y a le moins de cailloux possible pour qu'on descende dans un sol un petit peu plus meuble.
Relativement homogène.
Voilà. Donc, ouais. Alors, on descend. Hein, et puis là, on va faire des mesures régulières de température. Donc, une fois qu'elle sera enfoncée dans le sol, eh bien, régulièrement, on aura des mesures de température. Donc, c'est une sonde qui est très costaud. Hein. Il y a du titane, il y a de l'acier. Et puis, c'est un radiomètre qui mesure cette température. Et puis, bien sûr, toutes ces mesures sont transmises régulièrement au sol. Alors là aussi, les instruments apportent leurs analyses. Et puis, au sol, eh bien, tous les scientifiques sont derrière leurs écrans. temps et décrypte tout ça. Et puis un jour, bien sûr, nous aurons toutes ces informations.
Et cette sonde, cette mission ESIDE, elle a été posée plutôt près de l'équateur, plutôt vers
le
pôle.
Oui, on est plutôt...
Comment a été choisie la
Oui, alors on est plutôt dans les zones de l'équateur, au nord de l'équateur, sud de l'équateur, parce que pour l'instant, celle-ci n'est pas forcément à la recherche de l'eau. On sait qu'il y a de l'eau qui a coulé sur Mars, hein, mais là, vous voyez, on est plutôt dans des mesures de interne du noyau de Mars. Qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol de Mars?
Voilà, puis on a parlé de sismologie, donc on va, je pense, rester un certain nombre de temps pour écouter ce qu'il y a et comprendre ce qu'il peut y avoir
Alors,
à comprendre.
Je vous dis que le lancement, il a été fait le 5 mai 2018, donc comme un jour si on envoie des hommes, l'arrivée, c'était le 26 novembre 2018. Hein, et le temps de déployer ces instruments, vous voyez qu'il faut du temps.
Il faut
de
du
novembre
temps.
Jusqu'à nous sommes en février. Il a fallu tout ce temps pour paramétrer. Donc, pour nous, comme ça paraît tout simple, mais il y a énormément de travail de préparation. Et une fois qu'on est arrivé, il faut le temps de déployer tout ça.
Voilà, donc la mission InSight, c'est une mission
en cours.
Américaine.
Oui, en cours, qui a bien débuté.
Et on pense qu'elle va rester là, qu'elle va pouvoir fonctionner combien de temps? Il y a une durée qui a été
Alors, annoncée. Pour l'instant, je n'ai pas la durée qui a été donnée, mais bon, normalement, c'est une mission qui doit durer quand même quelques temps. Quelques mois, voire quelques années. On a des surprises parfois, parce que quand on prévoit la durée d'une mission, on peut s'apercevoir... Que si tout passe bien, qu'elle va durer très très longtemps.
Voilà. Alors, c'est un petit peu le cas parce qu'on va toujours rester sur Mars. On est toujours dans les événements marquants de ce début 2019. Dans l'espace, sur Mars, il n'y a pas qu'InSight. Il y a aussi, alors ça, c'est une vieille connaissance, c'est le robot. Cette fois-ci, c'est un robot.
Oui.
C'est-à-dire que ça bouge, ça se déplace. Hein.
C'est un rover, on dit.
Voilà, c'est un rover. Mais enfin, restons français. C'est un robot qui roule et c'est le robot Opportunity.
Alors voilà, vous me posiez la question tout à l'heure du temps qui est prévu. Eh bien, si je vous dis qu'Opportunity, il a été lancé le 24 janvier 2004, donc il a atterri 6 mois plus tard, et il était conçu pour durer 90 jours et faire 1100 mètres sur la planète Mars. Voilà, donc, c'était ce qui était donné. Et on s'aperçoit qu'il vient de s'éteindre en 2018, donc vous voyez, en ce qui est prévu et ce qui est réalisé, c'est énorme, le chemin parcouru. Hein. Je vous disais 1100 mètres à rouler. Eh bien, il a parcouru 45,16 kilomètres. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est l'objet qui a le plus roulé sur Mars.
Qui a le plus roulé sur Mars.
Oui, alors avec des panneaux solaires, donc comme énergie.
Alors quand même, on ne va pas le voir disparaître comme ça sans avoir une pensée émue pour lui, parce que c'est quand même la fin d'un rover qui a bien donné.
Qui a bien donné.
Est-ce qu'on a un premier bilan ou est-ce qu'il y a des choses qui transpirent déjà sur ce qu'il a apporté finalement?
Alors je veux dire qu'on a déjà 217 000 images. Voilà, en toutes ces années. Mais enfin, quand on reçoit des images régulièrement, c'est pas comme nous quand on regarde une photo, on dit elle est bien, elle est sympa. Mais voyez, les scientifiques regardent ces images qui arrivent et vont essayer à travers la photo de décrypter le sol, de voir, comme on disait tout à l'heure, s'il y a des traces d'eau, s'il y a des gros rochers, des petits cailloux, tout ça.
Donc c'est des images de paysages, c'est des images
de paysages. Alors souvent, on a des images noir et blanc, des images couleur, des images qu'on peut travailler dans d'autres longueurs d'onde.
Il y a eu des surprises autour de ces images?
Alors, du caillou, du sol martien.
Oui, mais il y a des choses qui ont surpris les scientifiques.
Que l'eau a coulé sur Mars, ça, c'est sûr, des canaux, voilà.
On le doit à Curiosity, la preuve a été faite par Curiosity.
Alors, Curiosity aussi, qui est un autre rover qui roule sur Mars.
Opportunity, pardon.
Oui, mais vous voyez, c'en est un autre, qui a beaucoup de monde sur Mars. Voilà. Et donc, on sait aussi qu'il nous a fait 15 panoramiques à 360 degrés.
Donc, voilà,
du lieu où il était, il a tourné, il a fait des panoramas. Comme il s'est déplacé, il a refait d'autres panoramas. Donc, suivant les zones où Opportunity était, on a des panoramas différents de cette planète Mars et qui renseignent beaucoup les astronomes. Alors, nous, bien sûr, quand on voit des images de Mars, on voit des images un petit peu orangées, on voit du caillou, de la poussière, on imagine que l'eau a pu couler sur Mars. Mais bon, ce rover a fait son travail puisque c'était comprendre la géologie de la planète et l'histoire de l'eau.
We'll be right back.
une sonde sur Mars, Opportunity, qui rend l'âme en quelque sorte après avoir bien servi. Il a bien contribué quand même à cette recherche, quand même une des recherches essentielles, c'est-à-dire de trouver de l'eau ou des traces d'eau sur la planète Mars.
Sur la planète Mars. Alors maintenant, c'est indiscutable, on sait que l'eau a coulé fortement sur Mars. On le sait qu'il y a de l'eau, entre guillemets, puisqu'il y a de la glace au pôle.
De la glace d'eau.
Glace d'eau, donc ça, on le sait. Hein. Opportunity a trouvé de l'hématite, c'est un minéral qui se forme dans l'eau.
D'accord. Hein.
Et nouvelle aussi, preuve. Il a trouvé l'emplacement d'un lac. Hein, donc, les restes, à travers les images, à travers toutes les observations qui ont été faites, bon, les scientifiques arrivent à prouver donc, qu'il y a non seulement l'eau à couler, mais qu'il y avait un lac sur le parcours de ce petit rover. Et on va quand même signaler pourquoi il est mort. Hein. Il y a eu une grosse tempête de sable en juin 2018 qui a recouvert ses panneaux solaires. Et puis, bien sûr, plus de moyens de communication.
Faute d'énergie.
Faute d'énergie, voilà. Mais enfin, on peut dire qu'encore une fois, une mission robotique exceptionnelle.
Avec une contribution internationale quasi totale quand même, parce qu'il y a le lancement, mais
oui.
Il y a plein d'instruments qui ont été, et en particulier l'Europe.
Tout à fait, il y a toujours des instruments. Alors ça va aller d'une caméra, hein, ça va aller d'une petite foreuse, ça va aller des antennes, voilà. Tout le monde apporte sa participation. Alors la NASA a pour principe, chaque fois qu'elle lance une mission robotique, de faire appel aux autres scientifiques du monde entier d'apporter un outil. Et donc, comme par exemple, le CNES fait des propositions à la NASA pour apporter des outils. Et si la NASA retient ces outils-là, ils sont intégrés à la sonde ou au rover. Et puis, mission à accomplir.
Donc, sur Opportunity, on peut dire que sa mission ou ses missions sont restées autour du thème de l'eau.
Oui. En grande partie, puis l'observation du
terrain, du
sol
paysage,
et du paysage.
Oui, voilà. Parce que les 217 000 photos sont des photos de paysages plus ou moins rapprochées. Il y a certainement des micro-photos, enfin des choses de...
Voilà, alors après, nous, comme on dit, les images qu'on regarde et puis celles qui sont étudiées par les scientifiques. Et puis donc, quand on travaille sur Robo Opportunity, en parallèle, il y a d'autres scientifiques qui travaillent sur les autres rovers. Et toutes ces analyses, ces observations sont mises en commun. Et puis là, pour tirer... on va dire une synthèse.
Il y a un remplacement de prévu de ce rover.
Il y a des missions sur Mars qui sont prévues pour 2020. Mais d'ailleurs, une mission de l'ESA en coopération avec les Russes, Mars 2020, qui est en cours d'élaboration. Et puis, bien sûr, il faut dire que la NASA a d'autres missions dans ses cartons pour aller un jour sur notre planète Mars.
Donc, cette planète Mars reste vraiment un terrain d'études majeur.
Privilégié,
dans l'activité spatiale.
Alors, aller sur Mars, c'est un gros programme, c'est beaucoup de projets. Ira-t-on un jour ? On attend pour l'instant les résultats des missions robotiques.
Eh bien, après la planète Mars, la Lune, qui est un autre objectif qui revient fortement à la
cette
mode,
année.
Pas seulement pour les 50 ans, mais on s'intéresse vraiment pour d'y retourner. Et en particulier, eh bien, on va parler de Chang 4,
voilà,
qui est
la
mission chinoise.
Hein. Donc, mission chinoise qui est arrivée sur la Lune au début de cette année.
Voilà, et qui était partie...
Alors, avec la particularité qu'elle est sur la face cachée de la Lune.
Voilà, alors, elle est sur la face cachée de la Lune. C'est la première fois qu'on pose quelque chose sur la face cachée ?
Non, ce n'est pas la première fois, mais des instruments qui marchent et qui renvoient des données, c'est la première fois.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on attend de cette position sur la face cachée ?
Alors d'abord, c'est un tremplin pour étudier d'abord les communications.
Oui.
Alors, il faut pouvoir parler avec une,
oui,
un objet.
Oui, parce que quand on est sur la face cachée, eh bien, entre la Terre et nous, il y a la Lune.
Et oui.
Et donc, de la même manière, c'est difficile de traverser la Terre pour communiquer.
Tout à fait.
On a ce problème-là.
On a ce problème-là. Comme la Lune tourne en même temps que la Terre, on a toujours la même face visible.
On a toujours une Lune qui nous gêne.
Voilà, elle nous gêne. Alors, c'est intéressant. Donc, il faut dire que les Chinois avaient lancé en début 2018 des satellites Kekayo. Donc, qui, eux, vont servir de relais de communication par rapport à cette face cachée.
Donc, Kekayo, c'est un satellite qui est un petit peu plus loin que la Lune. Et qui
Il est exactement sur un point entre la Terre et la Lune qu'on appelle un point de Lagrange.
Un point de Lagrange qui reste donc de manière
un peu stable,
à peu près stable à cet endroit-là et qui a le privilège de pouvoir nous renvoyer des ondes en direct sur la Terre.
Et donc, communiquer, aller et retour pour les instruments qui sont donc, sur cette face cachée.
Bien, donc problème de communication plus ou moins résolu, voilà. Et donc ce Chang 4 a posé lui aussi un certain nombre d'objets sur
Alors,
cette face cachée.
Il y a un atterrisseur.
Et en particulier un atterrisseur, oui.
Il reste sur place. Après, on ouvre la porte du garage et on laisse sortir un petit rover encore.
Alors comment on l'appelle ce petit
rover ? On l'appelle U2.
U2,
voilà.
Ça veut dire vous aussi, quoi, je pense.
C'est, alors, c'est en chinois, c'est le lapin de jade. Hein.
D'accord. Ouais.
Voilà, parce que les Chinois ont beaucoup de poésie, de contes au niveau de leur mission spatiale. Voilà, donc le lapin de jade. Et mec, qui déjà, depuis le 3 janvier, il a roulé 120 mètres.
120 mètres, c'est beaucoup, c'est quoi
C'est déjà pas mal, parce que c'est pas un gros objet. Il est beaucoup plus petit que nous parlions d'opportunité tout à l'heure. Là, c'est beaucoup plus petit, mais on va dire qu'entre ces deux instruments, c'est passé beaucoup de temps. L'informatique a fait beaucoup de projets, donc on va pouvoir intégrer des choses beaucoup plus performantes dans des plus petits boîtiers.
Donc 120 mètres, ça veut dire qu'il doit se faire des petits déplacements, il s'arrête, il étudie. Alors qu'est-ce qu'il a comme outillage et qu'est-ce qu'il cherche ?
Alors, qu'est-ce qu'il cherche ? Eh bien, il a d'abord une caméra chargée de recueillir des images de la surface. Ça, on va dire que c'est classique.
C'est la base.
C'est la base de toutes les émissions. Il a un spectromètre dans le visible et dans l'infrarouge. Donc, on mesure le spectre, la lumière, donc dans le visible et l'infrarouge. Il a un radar d'analyse du sous-sol.
Alors,
là aussi, vous voyez,
là on retrouve
partout.
Le sous-sol un peu comme sur Mars. C'est-à-dire
Toutes les missions robotiques vont. Ben, on va visiter le paysage. Et puis, une fois qu'on a visité le paysage, ben, on va commencer à gratter, on va dire, la Terre. Qu'est-ce qu'il y a dessous voilà. Et ensuite, il a un instrument conçu pour analyser alors, l'interaction entre le vent solaire et la surface de la Lune. Voilà, donc ce vent solaire qu'on a, nous, sur la face visible, qu'on a pu faire avec les missions Apollo. Mais on va essayer de faire ces collectes de vent solaire, donc sur la face cachée.
Très bien. Donc, en fait, ça vient compléter ce que l'on sait déjà sur la face visible, on va dire. Enfin, qu'on sait déjà...
On en sait un petit peu.
On ne sait pas tout. Et donc, ça vient effectivement comparer ces observations sur la face cachée. Et peut-être
alors, ça, c'est une mission chinoise. Donc, les Chinoises recueillent ces informations. Ouais. Alors après, comment ils vont les partager ? Donc après, c'est l'astronomie et l'astrophysique internationale. Il y a du partage et puis voilà, on attend qu'ils nous en fournissent bien sûr le maximum. Parce qu'aussi, il y a donc dans l'atterrisseur, il y a aussi des instruments. Donc vous avez la même chose, on va retrouver une caméra. Donc ce qui permet à ces deux objets de se faire des photos mutuellement, et puis de nous les renvoyer, de voir que tout fonctionne bien. Il y a un spectromètre aussi, donc qui en basse fréquence, c'est pour faire de la radioastronomie.
D'accord. Alors
faire de la radioastronomie sur la face cachée, c'est plus facile parce que, on est protégé un petit peu. La Terre, par exemple, on a l'atmosphère qui nous gêne beaucoup pour faire la radioastronomie. Et sur la face cachée, on tourne souvent de côté de l'espace et ça nous apporte
c'est
beaucoup de choses.
C'est toujours ça de...
Voilà. Alors, après, il y a des choses un petit peu... Un dosimètre, un neutron, qui est capable d'analyser la quantité d'eau dans le régolithe. Qu'est-ce que c'est que le régolithe ? C'est la poussière lunaire.
C'est la poussière lunaire.
Voilà.
Donc que certains astronautes nous ont rapporté, d'ailleurs, on en avait parlé
sur leur combinaison, voilà.
Absolument.
Donc cette poussière lunaire, donc ce dosimètre, elle va essayer de trouver de l'eau. Vous voyez que partout où on va, on cherche de l'eau.
D'accord, voilà. Ben oui, parce que derrière l'eau, il y a la vie, et donc il y a peut-être des traces. Voilà. Il y a beaucoup à comprendre, en tout cas. Donc ça, c'est Chang 4, depuis le 3 janvier, et qui a mis en œuvre, en action, un petit rover chanteur U2, oui. Qui commence à fonctionner. Donc on aura l'occasion, bien entendu, d'en reparler.
Oui.
Toujours la Lune en 2009, parce que la Lune en 2009, c'est tout un programme, Jean-Michel. Hein.
En 2019, oui.
Voilà, en 2019, pardon. Et parce que c'est les 50 ans de... Alors, là, il y a aussi des projets. Alors, on va parler de projets, en particulier aux États-Unis.
Alors oui, alors il y a eu le Lunar X Prize, hein, donc c'est un concours, concours privé, hein, un prix pour la Lune, donc qui a été financé par des financiers privés, et donc c'est Israël qui a construit une petite sonde qui doit aller se poser donc sur la Lune, si ça tout se passe bien, peut-être en fin février.
D'accord, donc très prochainement. Et le lanceur prévu...
Ça sera une fusée privée, Falcon 9. Hein.
Falcon 9 qui est quand même...
La société SpaceX.
Qui est un beau lanceur.
Beau lanceur.
Qui est un beau lanceur. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une sonde, le concours en question, puisqu'on parle de ce concours, un petit mot quand même.
Alors,
si nos auditeurs veulent concourir, qu'est-ce qu'il faut faire
Pour l'instant, c'est fini. Mais c'est le Lunar X Prize, donc il fallait faire des projets pour aller sur la Lune, construire, faire des propositions d'outils.
Ah bon, alors c'est trop tard.
C'est trop tard.
Jean-Michel, toujours la Lune, et en 2019, ce qui est prévu, c'est également un lancement indien.
Alors l'Inde, donc l'Inde, grande puissance spatiale, qui cherche la Lune, hein, cherche non seulement à les poser d'instruments, mais un jour des hommes. Donc l'Inde a dans ses cartons le projet de cette année d'aller poser un petit appareil. Alors sonde, rover, les deux, mais de toute façon d'aller se poser sur la Lune.
Ouais, et sur la face visible.
Sur la face visible, oui. Voilà, donc d'après les derniers renseignements de l'ISRO, donc l'agence spatiale indienne. Et donc on attend ça. Alors par contre, le lanceur, ce sera une fusée forcément indienne, hein, et pour l'instant la date n'est pas communiquée, mais c'est 2019.
Bien, donc deux activités, deux sondes prochainement, enfin en 2019, direction de la Lune.
Oui.
Quelques petites brèves.
Oui, et Chang'e 5 aussi.
Et Chang'e 5 qui arrive, oui.
Chang'e 5, oui, c'est une mission chinoise,
on aura l'occasion d'en parler. Donc quelques petites brèves, d'abord combien de lancements depuis le début de l'année, c'est bien
Alors
parti.
On a fait 9 tirs un petit peu plus calme, 9 tirs en 43 jours.
Voilà. Et puis j'ai noté aussi dans l'ISS un projet pour les touristes.
Alors l'ISS actuellement ils ne sont que 3, mais début mars ils devraient être 6, hein, puisqu'il y a eu des soucis de lancement. Donc on projette, hein, alors entre la Russie et les USA, donc d'envoyer 2 touristes en 2021.
En 2021.
Voilà.
Et puis enfin, quelques nouvelles brèves de Rosetta et d'Ultima Thule qui nous questionnent quand même sur la formation des comètes, des astéroïdes.
Alors effectivement, donc souvenez-vous, on a parlé de la sonde New Horizon qui est passée donc près d'un objet qui s'appelait Ultima Thule, qui avait une forme un petit peu de cacahuète et qui fait penser aussi à la comète Churyumov-Gerasimenko sur laquelle s'est posée la sonde Rosetta.
Donc on s'interroge sur
cette forme au début de notre système solaire, de la création
et
du système solaire.
Et des raisons éventuelles qui conduisent à cette morphologie. Voilà. Très bien. Pour terminer, Jean-Michel, parce que le temps passe très vite dans l'espace proche de la Terre en ce moment, en bibliographie, comme c'est l'usage, eh bien, nous allons recommander deux livres ou deux magazines en tout cas.
Alors on a parlé de comètes, alors je vous propose Les comètes et leurs secrets, de l'Antiquité à Rosetta, hein, donc c'est de Philippe Rousselot, donc aux éditions Ellipse.
Ellipse, très bien, donc Les comètes et leurs secrets de l'Antiquité à Rosetta, voilà, c'est un beau sujet. Et puis une autre recommandation ?
Alors, on est sur l'année de la Lune, beaucoup de livres sortent sur la Lune. Alors, je dirais qu'il y a un petit peu de tout et de n'importe quoi.
Alors,
Parce
pour
que,
éviter d'aller dans n'importe quoi,
oui,
vous...
regardez en librairie, mais surtout, bon, ce mois-ci, c'est Philippe et Héréna Ross, donc ils ont marché sur la Lune. Je crois que c'est aux éditions Belin, donc un livre.
Philippe Héréna Ross,
oui.
C'est un espagnol avec un
c'est,
R, avec
oui.
un J comme un rat.
Voilà.
Et le titre, c'est Ils ont marché sur la Lune.
Voilà.
Voilà. Eh bien, écoutez, on va quand même saluer la fin de ce rover martien,
oui.
Opportunity, qui a très bien servi la recherche scientifique. Donc, au mois prochain. Au revoir, Jean-Michel.
Au revoir.
5, 4, 3, 2, 1. Top. Allumage Vulcain. Décollage.